Bienvenue dans le Feel Better Podcast. Je m'appelle Colline et mon but est de créer une communauté au sein de laquelle on prône l'amour de soi et l'épanouissement personnel. Dans ce podcast, on parlera d'émotions, de relations et d'introspection. Et j'espère pouvoir t'apporter quelques clés pour t'aider à mieux te connaître, à mieux t'accepter et à construire la vie que tu veux et que tu mérites. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 29 du Feel Better Podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de comment on fait pour s'analyser, pour savoir ce qu'on veut et enfin réussir à prendre la responsabilité de sa vie pour trouver le bonheur. C'est vraiment un sujet qui est au cœur de mes podcasts et au cœur du développement personnel, je crois. C'est vraiment de réaliser que personne ne va venir nous sauver, personne ne va venir nous tendre sur un plateau ce dont on a besoin, ce dont on a envie. Et l'idée, c'est vraiment qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même et qu'il est temps de se rendre compte qu'on a tous, vraiment tous, un immense potentiel créateur et que nous avons tous, du coup, le pouvoir de transformer nos vies à condition d'y mettre l'énergie, la volonté, d'y croire, bien sûr, et d'y mettre un peu de méthode et de structure. Et je dis évidemment pas que c'est facile, au contraire, je pense que ça demande beaucoup de courage, de persévérance, beaucoup de travail inconfortable et notamment de travail d'introspection. Mais je crois que ça en vaut vraiment la peine. Je crois qu'on peut tous devenir les héros de notre propre vie et ça commence par prendre la responsabilité de notre vie, prendre les rênes, arrêter de se laisser porter par le courant, choisir consciemment là où on veut aller. Donc le but de l'épisode, c'est d'essayer de vous donner quelques clés, partager avec vous quelques méthodes qui existent pour justement reprendre les rênes de sa vie. Alors concrètement, comment on arrête de se laisser porter? Comment on décide de ce qu'on a envie de faire ou de ne pas faire? Je pense que la première étape, c'est déjà de faire un état des lieux honnête de sa vie telle qu'elle est aujourd'hui. Comment est-ce que vous vous sentez dans votre vie? Et je pense que quand on fait cet état des lieux, c'est important de sortir du « non, mais c'est normal, tout le monde vit ça ». Et ce que je veux dire par là, c'est de ne pas minimiser ce que vous ressentez. Non, c'est pas normal d'avoir la boule au ventre quand vous allez au boulot tous les jours. Non, c'est pas normal de plus avoir de dialogue dans votre couple même si ça fait 20 ans que vous êtes ensemble. Et non, c'est pas normal de vous sentir exténué, stressé, incompris. On a tendance à normaliser ces choses. Et quand je dis que c'est pas normal, ça veut dire que c'est pas une fatalité. Vous pouvez vouloir plus, vous pouvez vouloir mieux, vous pouvez décider de transformer les choses pour avoir une vie plus alignée avec qui vous êtes et ce dont vous avez envie. Et ça commence, je pense, par le fait de reconnaître les domaines dans votre vie où vous vous sentez pas épanoui, pas aligné, pas à votre place. On prend finalement rarement le temps d'arrêter un instant de courir et de se poser la question « comment je vais vraiment ?» et d'y répondre avec la plus grande honnêteté. C'est pas toujours facile de reconnaître qu'on n'est pas heureux là où on est. Je discutais avec une amie l'autre jour, elle me parlait de cette analogie qu'elle avait lue dans je sais plus quel programme ou bouquin, peu importe. Elle disait « vous pouvez passer beaucoup de temps à gravir les barreaux d'une échelle l'un après l'autre, mais est-ce que vous vous êtes assuré d'être sur le bon mur ?» Et donc mon amie disait qu'elle avait trouvé ça très parlant, et je dois dire que j'ai trouvé ça assez sympa aussi comme image. C'est facile de se laisser embarquer, c'est facile de monter à la mauvaise échelle. Dans sa carrière, par exemple, on peut se donner à fond pour grimper les échelons, décrocher des gros projets, etc. On va tout donner. Mais quand est-ce qu'on prend le temps de se demander si ça nous plaît vraiment? Est-ce que ça vous épanouit? Est-ce que ça vous fait vous sentir bien? Ou est-ce que vous le faites pour prouver à vous-même ou à quelqu'un d'autre que vous pouvez le faire? Est-ce que vous le faites parce que c'est ce qu'on attend de vous? Est-ce que vous êtes plus stressé, plus fatigué à cause de ce job? Est-ce que vous êtes sûr d'avoir mis votre échelle sur le bon mur? Donc moi, ce que je vous conseille pour faire cet état des lieux, c'est de diviser votre vie en piliers. Et notez pour chaque pilier comment vous vous sentez dans cet aspect de votre vie et pourquoi. Donc les piliers, ça va être, c'est un exemple, vous pouvez l'adapter, mais voilà ce que je vous propose. D'abord, l'environnement. Donc l'environnement, c'est votre maison, c'est la ville dans laquelle vous vivez, c'est le pays dans lequel vous vivez, c'est les lieux dans lesquels vous évoluez. Ensuite, le second pilier, ça va être les relations. Donc c'est votre relation amoureuse, vos relations familiales, les amis. Donc c'est votre vie sociale de manière générale. Donc est-ce qu'il y a des relations qui vous drainent, donc qui vont drainer votre énergie, ou au contraire, est-ce que vous avez des relations qui vous nourrissent? Le troisième pilier, ça va être la santé. Dans la santé, je pense que c'est important d'y incorporer votre bien-être, vos routines pour prendre soin de vous, votre alimentation. Ensuite, le quatrième pilier, ça va être les finances. Donc, c'est pas forcément le montant sur le compte en banque, hein, je crois, les finances, mais même si ça en fait partie. Mais je crois que c'est surtout comment je me sens par rapport à l'argent. Est-ce que je cours toujours après l'argent? Est-ce que je suis serein avec l'argent? Est-ce que j'attire l'argent? Est-ce que j'ai envie de faire des investissements? Est-ce que j'ai envie de revoir ma façon de gérer l'argent? Etc. Donc, c'est vraiment plus que « est-ce que j'ai pas d'argent ou beaucoup d'argent ?» c'est « est-ce que je peux définir ma relation à l'argent et est-ce qu'elle me convient ?» Ensuite, cinquième pilier, c'est les loisirs. Donc là, est-ce que j'ai de la place pour mes loisirs? Est-ce que j'y consacre assez de temps? Est-ce que j'ai envie d'essayer de nouvelles choses? Ensuite, sixième pilier, ça va être votre vie professionnelle. Donc comment on se sent dans sa vie professionnelle? Est-ce qu'on est épanoui? Est-ce qu'on sait où on va sur le long terme? Et aussi, est-ce qu'on a un bon équilibre vie pro-vie perso? Ensuite, septième pilier, c'est l'aspect spiritualité, développement personnel. Et donc, ça va vraiment être comment on se sent avec soi-même. Est-ce qu'on se sent à sa place? Est-ce qu'on se sent épanoui? Voilà, une fois qu'on a fait cet état des lieux, si on l'a fait avec beaucoup de sincérité, ça va nous permettre d'ouvrir les yeux sur les choses sur lesquelles on a besoin de travailler pour améliorer sa vie. Et c'est la base, je pense. Tant qu'on ne sait pas, tant qu'on n'est pas capable de poser des mots sur ce qui nous pose problème dans nos vies, on ne peut pas faire de plan, on ne peut pas se projeter, on n'a pas de point de départ. Donc ensuite, quand on prend conscience de ce qu'on a envie de changer, des domaines dans lesquels on a envie de changer des choses, la question c'est où est-ce qu'on a envie d'aller? Et ça, c'est pas toujours évident de le savoir. Je prends la carrière, par exemple, savoir qu'on se sent pas bien dans son job et savoir ce qu'on veut ou peut faire à la place, c'est deux choses très différentes. Et c'est très difficile de quitter son job si on ne sait pas où on va. Parce qu'évidemment, on a tous besoin de payer les factures à la fin du mois, donc on ne peut pas juste dire « ça ne me plaît pas, donc j'arrête » sans avoir un minimum de plan. Et donc comment on fait pour savoir ce qu'on veut faire? Et là, la clé, à mon sens, c'est d'apprendre à se connaître soi-même. Comment on apprend à se connaître? Alors je pense que ça commence toujours par l'expérimentation. Je pense que vraiment rien ne vaut l'action, donc il faut essayer de nouvelles choses, il faut tester pour savoir ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas. Il faut s'intéresser, il faut être curieux, il faut poser des questions. Mais il y a aussi tout un tas d'outils qui existent pour vous aider à déterminer quel genre de personnalité vous êtes, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin. Il y en a qui sont accessibles gratuitement sur le net, comme par exemple le test des 16 personnalités qui va vous dire si vous êtes plutôt un analyste, un diplomate, une sentinelle ou un explorateur, après avoir répondu à un certain nombre de questions. Donc par exemple, moi j'ai fait le test et je suis médiatrice dans la famille des diplomates. Donc créative, qui cherche plutôt à minimiser le nombre de relations, mais à avoir des relations riches et profondes, où chacun peut s'exprimer avec beaucoup d'authenticité. Et c'est aussi un profil qui va se perdre facilement dans ses pensées, avec beaucoup d'imagination. Donc je trouvais que dans mon cas, ça collait pas mal. Et puis ça peut ouvrir les yeux, je pense, sur des traits de caractère, sur des choses qui peuvent nous paraître banales et qui sont en fait une part distinctive de qui on est. Et du coup, ça peut donner des idées sur ce qu'on a envie d'essayer ensuite. Et puis après, vous avez des tests qui vont plutôt être payants, mais avec des organismes qui vous aident de la même manière à définir vos points forts, vos faiblesses, vos drivers, c'est-à-dire ce qui vous aide à vous lever le matin. La méthode DISC, par exemple, va vous placer sur un cadran avec des couleurs, jaune pour le plaisir, bleu pour la conformité, vert pour l'harmonie, rouge pour l'action. On a aussi le modèle ProcessCom, qui définit votre personnalité comme un immeuble à 6 étages, et chaque étage représente un type de personnalité. Donc il y a le type persévérant, dévoué et attentif. Donc ça, c'est un type qui a besoin d'être respecté pour ses convictions. Le type analyseur, responsable et logique, donc qui va rechercher des faits et des données. Le type empathique, chaleureux et compatissant, qui veut que vous vous sentiez bien et qui a besoin d'être apprécié pour ce qu'il est. Le type promoteur, qui va être direct, charmant, c'est un type qui trouve toujours un moyen de faire bouger les choses. Le type imagineur, qui est calme et plein d'imagination, qui a besoin de prendre son temps pour réfléchir, pondérer les concepts. Et puis le type énergiseur, qui va être spontané, créatif, qui apporte de l'énergie, qui aime essayer quelque chose de nouveau. Et donc sur ces 6 étages, la base, donc en gros le rez-de-chaussée, va représenter le type qui vous représente le plus. Et ensuite, la taille des étages va indiquer la quantité d'énergie disponible lorsque vous souhaitez basculer dans le type correspondant. En gros, l'idée, c'est de dire on a tous la répartition des 6 types de personnalités. Il y en a qui sont plus grosses que d'autres. Et en fonction de notre type de base, on va avoir plus ou moins de mal à basculer dans tel ou tel type de personnalité. Et donc, le principe de l'ascenseur illustre la capacité d'accéder à tous les étages et d'en utiliser toutes les ressources. Bref, vous voyez, il existe tout un tas d'outils qui permettent d'apprendre à mieux se connaître. La liste n'est pas du tout exhaustive, hein. Moi je vous ai donné quelques-uns que je connais. Et si vous cherchez quelque chose que vous pouvez faire à la maison, sans avoir besoin de ressources particulières, si ce n'est une bonne dose d'introspection, je vous conseille de faire votre Ikigai. Donc l'Ikigai, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est un concept japonais qui est devenu très à la mode ces dernières années en Europe, parce qu'il aide justement les gens qui sont un peu perdus, qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire, à trouver leur voie. Ikigai, ça pourrait se traduire par raison d'être, et c'est en fait l'intersection entre ce que l'on aime faire, ce pour quoi on est doué, ce dont le monde a besoin, et ce pour quoi l'on peut être payé. Donc trouver son Ikigai, ça permet d'aligner théoriquement passion, mission, vocation et profession. C'est plutôt vendeur. Et donc pour faire son Ikigai, il faut tout simplement commencer par lister tout ce qu'on aime faire et vraiment aller dans le détail, même si ça paraît insignifiant. Donc pour aider, on peut se baser sur ses expériences passées, se poser la question quelles sont les périodes de ma vie pendant lesquelles je me suis sentie bien. Pourquoi? Et par exemple, j'adorais dessiner, mais j'ai arrêté. Ou au contraire, j'ai toujours voulu dessiner et puis je ne m'y suis jamais vraiment mis sérieusement. Et c'est important de prendre le temps sur cette étape, de vraiment se poser avec soi-même et de laisser émerger les idées sans jugement. Et quand on obtient une liste conséquente, on regarde si c'est compatible avec les 3 autres points. Est-ce que je suis douée pour ça? Est-ce que le monde a besoin de ça? Est-ce que je peux être payée pour ça? Et pour cette partie, c'est vraiment important de ne pas se laisser influencer par les préjugés. Par exemple, je reprends l'exemple du dessin, vous aimez dessiner et vous êtes doué pour ça, un préjugé ça peut être « je ne peux pas gagner ma vie correctement juste en dessinant ». Et ça, c'est faux. Il y a des gens qui gagnent très bien leur vie en dessinant. À l'heure des réseaux sociaux et d'Internet, on a la faculté de toucher des milliers, voire des millions de gens avec des choses qu'on fait chez soi. Et on a la possibilité de gagner notre vie d'une manière qui n'était pas accessible pour nos grands-parents parce qu'on a la chance d'avoir accès à des technologies qui n'existaient pas avant. Donc soyez curieux. Si quelque chose vous intéresse, regardez ce qui se fait. Regardez si d'autres personnes arrivent à gagner leur vie avec ça. Et si d'autres personnes peuvent le faire, pourquoi pas vous ? Osez être original. Osez sortir du cadre. Et pour ce qui est ensuite de ce que le monde a besoin, je vais sortir une phrase qui est un peu bateau, mais que je trouve quand même très vraie. Le monde a besoin de votre flamme. Il a besoin de ce qui fait de vous qui vous êtes. Peu importe à quel point vous trouvez ça insignifiant, ce qui fait de vous, vous, ce qui vous rend unique, est un cadeau à faire au monde. Parce que je suis persuadée que quand on fait ce qu'on aime, et qu'on vit ce qu'on aime, on propage de l'amour, on propage de la positivité, on propage de l'espoir pour d'autres personnes qui voudront suivre le même chemin. Donc ne doutez jamais que ce pour quoi vous êtes doué est utile au monde. Et enfin, pour répondre à la question « est-ce que vous êtes doué ?», deux choses, demandez à un ami ou à de la famille, parce qu'on est souvent très dur avec soi-même. Et ensuite, si vous n'êtes pas doué, mais que vous êtes passionné, demandez-vous si vous pouvez devenir doué. Si par exemple vous aviez l'habitude de dessiner mais que vous avez arrêté depuis longtemps, vous aurez besoin de vous remettre à vous exercer. Donc donnez-vous les moyens d'atteindre le niveau que vous voulez atteindre. Donnez-vous les moyens d'apprendre. Ne restez pas sur la fatalité. Ne baissez pas les bras. Bon voilà, j'ai passé un peu de temps sur comment apprendre à se connaître, comment trouver ce qui nous anime, mais ça me semblait important parce que c'est vraiment indispensable si on veut transformer sa vie. Ça permet de comprendre où on veut aller, ça permet d'avoir un but. Et les méthodes que je vous ai partagées sont loin d'être exhaustives. Je l'ai dit, je vous ai partagé des méthodes que je connais et que je trouve qui sont des outils qui aident. Mais attention, ça reste juste ça, ça reste une aide, un support pour vous guider. Mais le travail se fait avant tout en vous et par vous. Prenez ce qui vous parle, ce qui fait écho, mais gardez en tête qu'il n'y a pas de méthode parfaite, que tout le monde est unique et tout le monde ne réagit pas de la même manière, n'a pas les mêmes déclics. Donc faites vraiment ce qui est bon pour vous et restez critique face à ce qui vous est proposé. Ok, donc une fois qu'on sait ce qu'on a envie de changer dans notre vie et qu'on a trouvé où est-ce qu'on a envie d'aller, la question c'est comment on y va. Et là, je pense que la clé, c'est la patience, la persévérance et surtout l'action. Vous connaissez probablement la célèbre citation d'Einstein qui dit que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Donc si vous voulez que des choses changent dans votre vie, il faut commencer à faire des choses différemment. Et je suis assez adepte des petits pas. Les gros changements, les grosses actions, ça peut être très bien. Je dis pas qu'il faut jamais le faire, parfois il faut savoir prendre un gros risque. Mais justement, ça fait peur, ça paye pas toujours tout de suite, et du coup, si on attend d'être prêt à prendre ce gros risque, souvent, on finit par ne jamais agir. Et comme on n'agit pas, rien ne change. Alors que les petits pas, ce sont des actions que l'on met en place qui ne nous paraissent pas insurmontables, qui font moins peur, et donc qu'on intègre petit à petit dans notre quotidien et qui vont devenir des habitudes, et qui vont, par effet boule de neige, finir par transformer notre vie. Vous connaissez tous l'expression « les petits ruisseaux font les grandes rivières », et donc là, on est exactement là-dedans, on est dans « en faisant un pas après l'autre, on avance ». Donc si on reprend notre objectif final, là où on veut aller, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, même tout petit, qui peut me rapprocher de mon objectif ? Le problème, c'est qu'on a souvent envie que tout change d'un coup. On ne met pas assez d'intention dans nos actions du quotidien. Quand on met en place des petites choses et qu'on ne voit pas de résultats, on abandonne. Du coup, on n'a pas de résultats et on se raconte une histoire où on dit qu'on a bien fait de laisser tomber puisqu'on n'obtient pas de résultats. Mais c'est toute l'importance d'agir avec intention dans ces petites actions du quotidien. Il faut rester focus, il ne faut pas perdre de vue l'objectif, il faut rester concentré sur pourquoi je fais ce que je fais, jusqu'à ce qu'on puisse voir une transformation. Les petits pas sont plus faciles à prendre, mais ils demandent plus de persévérance, car il faut les faire longtemps avant de voir un changement. Vous ne devez pas abandonner, vous devez croire en vous, en votre objectif, et continuer à mettre de l'intention dans vos journées pour rester les rênes bien en main et pas retomber dans le fait de se laisser porter et de laisser le temps filer sans rien engager pour se rapprocher de ce qu'on veut vraiment. Et pour vraiment transformer l'essai, je pense qu'il est important d'avoir une bonne organisation pour ne jamais s'éloigner de l'objectif final. Donc pour s'assurer que les petits pas que vous menez vous emmènent dans la bonne direction, je vous conseille d'abord de mener une action à la fois. Sans vous laisser distraire, essayez de tout faire en même temps, ça vous amènera qu'à vous éparpiller et à gaspiller votre énergie au risque de vous décourager. Donc gardez un listing des choses que vous voulez faire. Le maillage, c'est celui qui vous convient, donc ça peut être un listing au jour ou à la semaine. Je pense que le mois, ça commence à devenir un peu trop large, mais encore une fois, vous prenez ce qui vous parle. Et relisez régulièrement les listes. Assurez-vous qu'elles sont toujours en phase avec ce que vous voulez obtenir. Gardez en tête l'objectif final. Pensez à noter vos idées au fur et à mesure qu'elles vous arrivent pour ne pas les oublier sur un carnet ou dans votre téléphone. Donnez-vous des objectifs atteignables. Si vous prévoyez de faire moins, vous avez plus de chances d'y arriver et du coup de ne pas laisser tomber. Et célébrez vos réussites. Et enfin, définissez des créneaux que vous dédiez à faire avancer vos tâches. Vous augmentez grandement vos chances de réussite si vous avez des créneaux dédiés. Donc, ce sont des conseils qui peuvent paraître un peu bateaux, mais qui, appliqués de manière régulière et avec persévérance, finiront par porter leurs fruits. Voilà, je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui. Si je devais résumer les principaux messages de cet épisode, je dirais d'abord que pour reprendre les rênes de votre vie, il faut commencer par faire un état des lieux honnête de votre vie actuelle pour savoir ce que vous avez envie de changer, dans quel périmètre vous avez envie de changer. En deux, une fois que vous savez où vous voulez plus être, il faut définir où vous voulez aller. Et ça passe avant tout par apprendre à se connaître soi-même. Il existe de nombreux outils et méthodes pour vous y aider, mais n'oubliez pas que le travail se fait avant tout en vous et par vous. Et puis en trois, une fois que vous savez où aller, action et méthode sont les meilleurs moyens d'arriver au bout des choses. Pas forcément besoin de prendre de gros risques, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Soyez réguliers, persévérants, et vous verrez que votre vie va se transformer petit à petit. Voilà, j'espère que cet épisode vous a donné quelques clés pour vous aider et vous lancer dans votre quête d'une vie qui vous ressemble, et puis vous a donné envie de partir en quête de vous-même. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker ou à laisser un petit commentaire sur Insta sur le profil de la Feel Better Community. Et puis si vous voulez rater aucun épisode, vous pouvez vous inscrire à la newsletter qui vous annonce la sortie du podcast et le thème de la semaine. Le lien est dans la description de l'épisode. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine, je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt.